On en parle tant et plus en ce moment, vous le savez, à l'ONU. L'ONU devrait accorder aujourd'hui aux Palestiniens le statut d'État membre de l'ONU à part entière. On en a discuté avec Yehuda Ilankri hier soir. Il est ancien ambassadeur en France et à l'ONU. Il évoque notamment les propos de la ministre des Affaires étrangères belge, Hadja Labib. On l'écoute, il est au micro de Blaise van der Linden. Ah non, Lucie Gilson, ben voilà.
Bonjour.
Ah.
Bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes président du consistoire israélien.
Yehuda Ilankri, bonjour.
Bonjour Lucie.
Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Une résolution devrait être votée aux Nations Unies cette semaine afin de permettre à la Palestine de siéger en tant que membre permanent à l'ONU. Le vote aura lieu le 10 mai prochain et c'est la deuxième fois qu'une résolution est votée dans le mois, puisque les États-Unis avaient opposé leur veto le 18 avril dernier. Quelles pourraient être les conséquences cette fois-ci si la résolution était adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies ?
Elle sera très certainement adoptée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les Palestiniens y disposent d'une majorité écrasante. Donc, obtenir les deux tiers, ce qu'on appelle en jargon diplomatique onusien, un vote important, n'est pas infranchissable pour les Palestiniens. Leur problème sera toujours celui du Conseil de sécurité, parce que les États-Unis sont là. On sait que les États-Unis, sur le principe, envisagent bien la création d'un État palestinien à terme, mais il faut que les conditions nécessaires soient réunies. Il faut que ce soit le résultat d'une négociation bilatérale avec Israël, et ça n'est pas le cas de figure. Donc, toutes les chances indique que les Palestiniens devront confronter à nouveau un veto américain. Il me semble qu'ils exploitent la situation de fragilité relative dans la relation israélo-américaine, nourrie de dissensions, pour essayer d'insérer encore une fois un vote de ce type. D'une pierre, ils font deux coups. D'abord, rappeler qu'ils sont là pour obtenir le statut d'un État. Deuxièmement, pour confondre les Américains dans la voie des vétos. Sur le principe, moi qui vous parle, Yehuda Ilankri, ancien ambassadeur des Nations Unies, j'adopte l'idée d'un État palestinien. Votre ministre des Affaires étrangères, Madame Hadja Labib, a raison de parler du sens de l'histoire. C'est vrai, le 29 novembre 1947, la résolution 181 prévoyait la partition de la Palestine mandataire entre un État juif, qu'on n'appelait pas encore Israël, et un État arabe, qu'on n'appelait pas encore la Palestine. Mais c'est l'idée de base. Sauf que Madame Labib a oublié d'évoquer qu'il y a eu, dans ce sens de l'histoire, plusieurs tentatives de fracturer le sens de l'histoire à travers des agressions arabes de certains pays arabes, notamment les frontaliers avec Israël, et les Palestiniens, d'éliminer Israël. C'est-à-dire l'intention génocidaire, puisqu'il faut reprendre un terme à la vogue maintenant, l'intention génocidaire était là. Et tentatives de génocide, il y a eu. Il y a eu des guerres qui ont été perdues par le camp arabe. Ça a évolué, heureusement. Nous sommes en situation de paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, deux pays frontaliers d'Israël qui, naguère, avaient cet objectif. Donc, on peut miser sur ce changement de climat, sur la paix qui gagne du terrain, pour espérer un jour voir l'avènement d'un État palestinien vivant côte à côte avec Israël dans la coexistence et l'harmonie. Mais pour cela, il faudrait que les Palestiniens, au moins cette demi-tête palestinienne qu'on nomme le Hamas terroriste, génocidaire, il faut qu'ils se libèrent impérativement de leur motivation, de leur fantasme idéologique et politique, celui d'éliminer Israël.
Alors, vous l'avez rapidement évoqué, certains États ont d'ores et déjà déclaré qu'ils appuieraient ce vote et donc qu'ils en profiteraient pour reconnaître la Palestine à l'ONU. C'est le cas de l'Espagne, par exemple, mais c'est aussi le cas de la Belgique, avec les déclarations de la ministre des Affaires étrangères belge Adjal Habib. Quelles sont, selon vous, les motivations de ces pays-là à soutenir ces... Est-ce que c'est des motivations politiques?
Ce sont des choses qui ont été déjà déclarées par l'Espagne, par la Belgique peut-être. C'est la première fois que ça se fait de façon si ouverte. Ça donnera un peu plus de dynamique à l'idée de l'État palestinien. Je vous le dis moi-même, en Israël, il y a bon nombre d'Israéliens qui ne s'opposent pas sur le principe d'un État palestinien, mais à terme. Et lorsque les conditions que je viens d'évoquer, certaines, seront remplies. Donc, je pense qu'en parallèle à leur tentative de faire avancer l'État palestinien comme État membre à part entière des Nations Unies, il faudrait aussi que la Belgique, c'est un conseil amical que je donne à votre ministre des Affaires étrangères, si elle me le permet, à l'Espagne, qu'ils investissent l'énergie nécessaire et l'inspiration nécessaire pour faire dire aux Palestiniens ce qui doit être dit. N'oublions pas que l'autorité palestinienne n'a même pas condamné le génocide du Hamas, perpétré par le Hamas le 7 octobre. Alors, il faut qu'ils avancent sur ce champ-là. Il faut que nos amis européens puissent faire œuvre éducative en essayant d'amener les Palestiniens ou l'autorité palestinienne, pour le moins, à un bon sens. C'est une chose que de recevoir Riyad El-Malki, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, de lui promettre certaines initiatives. Mais c'est une autre aussi qu'il faut accomplir. C'est celle de dire à M. Riyad El-Malki et au président Abbas qu'il faut absolument qu'il se prononce sur cette question du 7 octobre. S'il couvre l'acte, même de façon implicite, du Hamas, ça les disqualifie comme étant membres aux Nations Unies.
Mais la Belgique ne s'engage en revanche pas dans une reconnaissance bilatérale rapide, comme le préconise notamment l'Espagne, même si elle soutient toujours une solution au conflit israélo-palestinien qui passe par deux États. Si la Palestine obtient le statut d'État membre à part entière, quelle serait la prochaine étape stratégique pour la Belgique ?
Eh bien, d'aller sur la voie de la paix. Pour la paix, il faut éduquer aussi les prétendants ce statut d'État membre à part entière, à pratiquer un langage de paix et une logique de paix. Il faut absolument qu'ils s'installent dans la logique de paix, ce qui n'est pas le cas, notamment pour cette deuxième moitié de l'autorité du peuple palestinien qui est le Hamas. Tant que le Hamas existe, il n'y aura pas de paix, ça c'est évident. Alors, stratégiquement, la Belgique, l'Espagne, d'autres pays de l'Union européenne devront œuvrer afin que ces deux demi-têtes s'unissent et se prononcent en une voix et non pas à deux voix, non pas à deux demi-têtes, et qu'ils s'installent dans une logique de paix claire et nette et sans équivoque.
Alors,
À ce moment-là, les conditions seront réunies pour un État palestinien. Encore une fois, je vous dis, c'est un principe que j'accepte. Mais il faut que les conditions nécessaires soient réunies.
Alors, ce n'est pas l'avis du ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, qui a publié sur X ce matin une publication où il a déclaré que, en fait, il a qualifié cette reconnaissance de non-sens et il a expliqué que cela pourrait envoyer un signal contre-productif de récompense de la violence. Et il a même comparé aux événements comme si au lendemain du 11 septembre 2001, on reconnaissait en fait un État islamique. Est-ce que c'est votre avis également? Est-ce que ça va avoir cet impact-là dans la psychologie collective, disons?
Il y a beaucoup de vrai dans ce que dit le ministre Katz. C'est réellement un non-sens que de promulguer l'État palestinien comme État membre Oui, je parle même d'État palestinien, je n'en fais pas un secret. Mais, c'est une forme, effectivement, de valorisation qui ne devrait pas avoir lieu. Commençons d'abord par faire dire à l'autorité palestinienne qu'elle condamne le génocide du Hamas. Or, ça ne se fait pas. Et dans ces conditions, effectivement, on est en droit de parler de récompense, entre guillemets, aux Palestiniens, ce qui est complètement, à l'heure actuelle, de mauvais goût, si je puis dire. Ça n'est pas le timing qu'il faut pour cette démarche. Elle doit avoir lieu sur un fond autrement plus serein, un fond de négociation bilatérale avec Israël. Et encore une fois, je pense que les Palestiniens se fourvoient parce qu'ils considèrent que les États-Unis se détachent d'Israël. C'est une fissure qui n'ira pas jusqu'à faire obtenir la reconnaissance des États-Unis. Obama ne l'a pas fait. Il y a déjà eu une tentative à l'époque d'Obama. Biden ne le fera pas. Or, ils feront mieux de travailler sur la voie de la paix que de forcer la main aux uns et aux autres. Une reconnaissance au niveau de l'Assemblée générale peut se faire même sans la Belgique, même sans l'Espagne. Les Palestiniens disposent d'une majorité écrasante. Mais une fois devant le Conseil de sécurité, ça n'est pas l'évidence. Les États-Unis seront là pour leur barrer la route.
Même dans le cadre de la situation délicate dans laquelle Biden est en termes de politique interne aujourd'hui.
C'est ce qu'ils exploitent, les Palestiniens. Il est dans une situation politique interne. Ils cherchent à le déstabiliser encore plus avec des initiatives de ce genre. Mais il l'a bien montré il y a peu de temps. Il a opposé son veto à cette initiative palestinienne. Il ne va pas changer d'avis en 15 jours, en 2 mois, en 3 mois. Ça n'est pas la carte à jouer, je pense. Comme le disait Abba Yemen, le légendaire Abba Yemen, les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de manquer ou de rater une occasion. Alors, ça n'est pas la bonne occasion.
Eh bien, Yehuda Lankri, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci beaucoup, Lucie.